par exemple, qu'il ne veut pas être un bricoleur, un brocanteur avec la parole de Dieu, mais qu'il veut vraiment apporter un message sérieux, qu'il ne veut rien savoir de questions d'argent, qu'il ne veut pas utiliser la ruse, qu'il ne veut pas se laisser influencer par les manœuvres, il veut absolument être impartial et plaire d'abord au Seigneur, même si cela lui coûte. Il y aurait là aussi beaucoup de choses à dire, et puis le souci qu'avait l'apôtre Paul d'affermir l'Église. Si vous lisez le livre des Actes, la raison des deuxièmes, second et troisième voyages missionnaires, c'est le souci d'abord de l'affermissement de l'Église. Allons voir dans quel état sont les églises qui ont été fondées, et puis affermissons ces églises. Et heureusement, parce que quand il y passe, il se rend compte que d'autres sont passés entre le premier voyage et puis celui qu'il est en train de faire, et ces autres, ce sont les faux docteurs. Alors, je ne vais pas développer ceci, mais c'est un thème très important. Il me reste une sorte de petit appendice à ajouter avant de pouvoir passer aux philosophies trompeuses. J'aurais pu éventuellement le mettre ailleurs, mais beaucoup plus loin. Ça colle aussi avec ce que nous voyons là dans le verset 4. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. En appendice, j'aimerais simplement ajouter ceci, c'est que nous devons veiller à ne pas avoir un mauvais point de repère qui est celui des émotions et des sentiments pour juger de la valeur des discours. Nous aurions pu le voir dans le quatrième grand chapitre, à savoir l'illuminisme, le faux mysticisme et l'extrémisme doctrinal. Mais comme je ne sais pas du tout comment on ira jusqu'au bout, je préfère l'aborder maintenant parce que ça colle aussi avec ce premier chapitre. Un mauvais point de repère, les émotions et les sentiments. Tout simplement parce que le danger de bien des discours séduisants dans tous les temps, et je dirais par excellence, aujourd'hui, par triste excellence, aujourd'hui, c'est qu'il remue les sentiments, qu'il chatouille les émotions. D'ailleurs, c'est un des axes de la pensée du Nouvel Âge, dont vous allez faire quelque peu connaissance au travers des cassettes et de ce livre. Dans le Nouvel Âge, un des points de repère de cette nouvelle gnose, cette nouvelle connaissance, de ce développement d'un être nouveau dans une ère nouvelle, je vous en dirai quelques mots aussi, un des points de repère, c'est ce que l'on ressent. Il est question de chaleur, il est question de lumière, il est question d'expérimenter au-dedans de soi quelque chose qui colle avec une révélation intérieure. Et on le sent. Et c'est parce qu'on le sent qu'on se figure que c'est quelque chose de valable, qui se tient, qui crédibilise l'enseignement de ceux qui nous ont apporté la chose, puisque ça se réalise, c'est donc vrai, c'est donc fiable, puisque ça fait du bien, allons-y. Et hélas, je vous en donnerai des exemples, c'est une pensée qui se développe dans l'Église de Jésus-Christ, ou de plus en plus parce qu'on se sent bien, parce qu'on ressent certaines choses, on dit, ben c'est juste, ça vient donc de Dieu. Faisons attention. Faisons attention. Si la parole de Dieu donne une place certaine aux sentiments, aux émotions, qui font partie de la beauté de la création de l'homme, Dieu nous a créés, avec un ensemble de facultés, dont des facultés de réflexion, d'intelligence, de volonté, de raisonnement, et des facultés émotionnelles. Nous bénissons Dieu. Bon, il est vrai que la chute, le péché a été un véritable séisme, et a corrompu aussi tout cela, et qu'il y a un désordre terrible. Chez les uns, le domaine de l'intellect a pris des proportions énormes, mais en dehors de Dieu, l'intellect est mort aux yeux de Dieu, et donc est capable d'inventer des choses absolument horribles, y compris dans le domaine spirituel. Chez d'autres, c'est l'aspect émotionnel qui va prédominer, Et on assiste à des débordements absolument incroyables. Et puis on se convertit un jour à Jésus-Christ. Il y a un bouleversement intérieur de toute notre mentalité, notre intelligence commence à être renouvelée, il se passe des choses extraordinaires, Dieu intervient même parfois directement dans notre corps, parce que il y a un tout, n'est-ce pas, dans notre être. Et à partir de là, Dieu fait tout un travail de rééquilibrage, de remise en place. On ne peut pas vivre une vie chrétienne en gardant un désordre au niveau de l'intellect, au niveau des émotions et de tout le reste. Et cela prend plus ou moins de temps. Bien sûr, ça va se prolonger tout au long de la vie, parce qu'il n'y a que là-haut que tout sera vraiment parfait, n'est-ce pas? Mais il est évident que si vous avez eu un passé dans lequel vous avez connu de grands déséquilibres, eh bien ceux qui ont un cœur extrêmement dur parce qu'ils n'ont vécu que dans le raisonnement, Dieu va travailler pour remettre en place tout ce monde des émotions. Ceux qui ont vécu dans les débordements affectifs ou qui ont manqué d'affection et donc qui ont une soif affective et qui sont tentés d'aller sucer toutes les mamelles d'affection même après leur conversion, cela Dieu va devoir entreprendre tout un travail par son esprit pour qu'il y ait harmonie. Et aujourd'hui, nous sommes dans un monde terriblement déséquilibré au niveau affectif. Parce qu'on grandit parfois sans maman. Avec une maman qui est toute seule, le papa n'est pas là. Ou bien il y a le divorce, etc. N'est-ce pas ? Et tout cela joue et produit un déséquilibre affectif terrible, des soifs d'affection terribles, avec tous les problèmes que cela engendre, une fois qu'on est adulte aussi. Et quand on se convertit à Jésus-Christ, on peut être très tenté par tout ce qui présente un caractère émotionnel élevé. Et en mettant, si cela vient de soi-disant homme de Dieu, si cela vient de l'Église, eh bien, n'est-ce pas, on dira, bon, c'est bon, c'est dans l'Église que ça se passe. C'est tel prédicateur qui c'est en lisant tel livre, n'est-ce pas. Alors, puisque ça vient du monde de Dieu dans lequel je suis entré, c'est crédible, c'est valable. Et alors, on peut verser dans des extrêmes absolument terribles. Notre vie de disciple de Jésus-Christ ne doit pas être fondée sur les sentiments tout seuls. N'ayons pas cette sorte d'axiome, d'équation trop facile, ce qu'il a dit m'a remué, donc cela vient du Saint-Esprit. N'ayons pas cette attitude. C'est une équation troublante, c'est une équation dangereuse. Ça peut venir du Saint-Esprit. N'est-ce pas, le Saint-Esprit n'est pas anti-émotion. Jésus a pleuré, Jésus a vibré, il y a des mots qui sont du très vivant émotionnellement dans les Écritures concernant le Seigneur Jésus. Mais vous savez que Jésus a été aussi capable d'être d'une sévérité incroyable. Il n'était pas emporté au vent des émotions. Et Jésus-Christ s'est révélé comme un personnage viril. Vous savez que quand Jésus a entraîné ses disciples certainement au pied de l'Hermon pour une retraite, pour être un peu à l'écart de la foule, il leur dit, écoutez, dites-moi un peu, qui dit-on que je suis? Alors les disciples ont avancé des noms. Et il est intéressant de constater quels sont les noms qu'ils ont avancés. Ils n'ont pas avancé les noms de personnages efféminés, mais de personnages extrêmement virils. Ils ont parlé d'Élie. Élie, vous savez, hein, c'était un viril, hein, et il fallait qu'il soit viril pour exercer le ministère qu'il avait à exercer. Jérémie, qui avait un développement affectif très grand et qui un profond amour pour son peuple, a dû être tenu et avoir une virilité pour vivre ce qu'il a vécu. Il a été question de Jean-Baptiste, etc., puisqu'on disait que c'était peut-être Jean-Baptiste qui était revenu. Bref, on se rend compte que quand les gens voyaient Jésus et qu'ils voulaient le comparer à un personnage, ils ne le comparaient pas à une femmelette. Il y a quelqu'un qui avait un caractère bien en place, qui était bien masculin, si vous voulez, mais avec un équilibre de caractère extraordinaire. Hein. Ça, c'est ce qui fait la différence avec nos virilités humaines et masculines, qui sont parfois destructrice et trop peu sensible, n'est-ce pas? J'aime comparer le cœur de l'homme à une harpe. avec plusieurs cordes. Et parmi ces cordes figurent celles des sentiments et des émotions. Et bien entendu, plusieurs instrumentistes utilisent, jouent de cette harpe et pincent les cordes des sentiments et des émotions. Quand on est régénéré, il y a bien sûr le Saint-Esprit qui joue. Et nous bénissons Dieu, nous le répétons, nous ne sommes pas anti-sentiments. Mais, attention, nous pouvons en quelque sorte, je dirais, jouer un peu nous-mêmes aussi. Et puis, pour aller à l'autre extrême, le diable joue. Et il se trouve que, quel que soit l'instrumentiste, jusqu'à un certain point, lorsque l'on n'a pas une oreille suffisamment fine et exercée pour discerner, on peut très bien confondre l'origine à cause du résultat. N'est-ce pas, quand on sent, je prends un exemple, une sœur catholique, donc qui fait partie d'un ordre, qui est prosternée devant une icône, devant une statue, dans une chapelle, dans une église ou dans une pièce. Et peut verser des larmes parce qu'elle est bouleversée, alors qu'elle est en train de réciter des prières. Un gourou peut vivre des moments de bouleversement absolument extraordinaires. On sait que dans l'usage de certaines drogues, on peut, dans le voyage, avec ses multiples détours, avoir des phases qui sont des phases d'un débordement émotionnel qui apparaît très positif. Au point d'ailleurs que un des grands dangers du Nouvel Âge, c'est qu'il préconise l'utilisation des drogues, en indiquant qu'elles ont un effet positif, qu'elles s'inscrivent dans cette manière de développer notre potentialité, notamment au niveau de notre cerveau, de nous faire pénétrer dans un domaine où on est capable de se dépasser. Le Nouvel Âge ment là, parce qu'il n'y a pas que cet aspect, et puis c'est un mirage, on sait ce que c'est, n'est-ce pas ? Même quand on ne l'a pas vécu. Alors, il est évident que quand on a peu de discernement, on peut être tenté de mettre sur le dos du Saint-Esprit des émotions profondes qui ont une autre origine. Je prends alors un exemple dans la lettre aux Corinthiens, la première aux Corinthiens. Les chrétiens de Corinthe, d'après ce qu'on peut lire, faisaient des expériences émotionnelles intenses. Et pourtant, au même moment, certains vivaient dans l'immoralité, au point que l'on acceptait des situations d'inceste, comme dans 1 Corinthiens au chapitre 5, et où l'apôtre Paul est obligé d'intervenir et, je dirais, de discipliner par lettre, et d'être extrêmement sévère, puisqu'il excommunie, il exclut d'autorité de l'Église de Corinthe, qu'un tel homme soit livré à Satan, c'est-à-dire qu'il n'ait plus le bénéfice du bouclier protecteur que représente l'Église de Jésus-Christ, de manière à ce que sous les bombardements de la puissance des ténèbres, il éprouve le besoin de revenir sous ce bouclier. Mais hélas, après avoir peut-être terriblement souffert dans son endurcissement et dans son péché. Donc, voyez qu'il est fortement possible de vivre des débordements émotionnels en même temps que des débordements de la chair. Et il est triste de constater que bien souvent dans l'expérience des églises, ceux qui ont vécu des débordements émotionnels et des grandes expériences se sont révélés très fragiles dans le domaine de la sexualité. D'où la nécessité de faire très attention, parce que le Saint-Esprit ne conduit pas dans l'immoralité. Le Saint-Esprit ne conduit pas aux œuvres de la chair. Le fruit de l'esprit, hein, c'est l'amour, la paix, la joie, etc. N'est-ce pas ? C'est le caractère de Christ qui se développe en nous. Et la partition du Saint-Esprit, ce n'est pas n'importe quoi, la partition sur laquelle le Saint-Esprit, ou de laquelle le Saint-Esprit s'inspire pour jouer, pour tirer et pincer les cordes des émotions, c'est la parole de Dieu. Et pas n'importe quoi. Je vais vous donner ici une petite illustration que j'ai tirée d'une revue évangélique très connue dans laquelle il y a des rubriques consacrées à des interviews de musiciens évangéliques, plus ou moins, je précise, également des contenus de cassettes, de disques, etc. Et il y a là, j'ai sous les yeux, un extrait d'interview d'un de ces musiciens, et le rédacteur de la revue, ou celui qui est chargé de la rubrique, lui pose cette question. « Beaucoup de tes chansons sont en anglais. Ne penses-tu pas que c'est un obstacle à la communication avec le public, puisqu'il chante essentiellement en Europe francophone, je ne vous situerai pas spécialement le pays. Je me suis confiant, c'est un obstacle, surtout sur scène, mais je suis amoureux du beau et je préfère la musicalité de la langue anglaise à celle du français, et du moment que je suis capable d'écrire et de chanter en anglais, point de suspension. Je crois que même avec un texte en anglais, les gens peuvent saisir quelque chose, peut-être pas intellectuellement, mais au niveau des tripes. Pour moi, une chanson, c'est plus qu'un texte, mais une mélodie, un rythme qui permettent de faire passer quelque chose de complet sans avoir forcément besoin de paroles compréhensibles rationnellement. Je ne sais pas si vous réalisez. Et ça, c'est en vogue. C'est en vogue, n'est-ce pas? Je crois que le Saint-Esprit peut agir au travers d'une mélodie. Bon, c'est sûr que le Saint-Esprit peut agir au travers d'une mélodie. Et nous avons même dans Aime l'Éternel des mélodies qui ont été merveilleusement composées pour aller avec certains messages. Il y a une harmonie entre les deux, hein? Mais nous n'avons pas le droit d'en faire un axiome systématique et de dire que de toute façon, une musique seule peut faire passer quelque chose de complet. Comment est-ce qu'on va pouvoir déterminer de toute manière si ce complet est bon ou mauvais? Mais vous voyez, ça c'est à la mode à l'heure actuelle. Et parce que, hélas, les croyants évangéliques qui veulent sur ce plan être circonspects sans être fermés sont de moins en moins nombreux, ils se tâtent en se demandant s'ils sont des êtres normaux. Pourquoi? Parce que de plus en plus il y a un courant majoritaire qui va dans ces directions qui appartiennent, hélas, au monde. Nos émotions doivent être en accord avec la parole de Dieu. Leur fondement est important. Dieu ne doit pas être seulement aimé avec les sentiments, mais avec toutes nos facultés. Avec toutes nos facultés. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et le terme cœur, d'ailleurs, en lui-même, déjà, évoque une totalité. C'est un terme très présent dans les Écritures, c'est un des termes les plus employés, près de 1000 fois. Dans les Écritures. Et le cœur dans les Écritures, c'est vraiment l'épicentre de la personnalité, c'est le quartier général de l'individu, c'est là que se situe, qui est le siège de ses sentiments, de sa volonté, de son intellect, de sa puissance de raisonnement, etc. Hein? Tu aimeras le Seigneur avec toutes tes facultés, et sans les dissocier l'une de l'autre, de manière à ce qu'elles se contrôlent aussi mutuellement. Que tu puisses contrôler tes émotions par ton intellect. C'est pour cela que quand quelqu'un perd la maîtrise de soi, au moment où il est, je dirais, dans sa relation avec le Seigneur et dans un moment qu'il qualifie d'adoration, s'il perd sa maîtrise de soi, je me méfie. S'il y a quelqu'un à côté de lui qui suffoque dans une crise d'asthme et qu'il est là dans son adoration et incapable de s'arrêter pour l'aider, je dis que ça ne vient pas de Dieu. Parce que le fruit de l'esprit s'appelle là maîtrise de soi. Et quelle est la colonne vertébrale de la vie chrétienne? Alors j'insiste assez fortement parce que c'est actuellement un des grands problèmes à cause de cette vague de c'est cette lame de fond, ce raz-de-marée de sentimentalisme, d'émotions débordantes qui appartiennent et à un christianisme qui a tendance à dévier et à plonger dans un irrationnel parfois très douteux, à cause de ce qui se passe dans le monde et notamment au niveau du nouvel âge. N'accordons pas une confiance aveugle et exagérée à nos émotions, ne les isolons jamais de notre intellect et de la parole de Dieu. Je dois toujours vérifier si ce qui a provoqué mon émotion est en accord avec la parole de Dieu. Est-ce que le fondement est pur ou impur? Et là, je voudrais simplement, en terminant, avant de prendre 2-3 textes de conclusion, vous montrer combien, chez les Corinthiens, le monde de l'époque influencer l'Église, comme nous l'avons déjà vu dans d'autres domaines. On l'a vu avec l'exercice de la langue avant-hier, hein, parler à la Corinthienne. Nous aurions pu évoquer de la vie à la Corinthienne. Vivre à la Corinthienne, c'était vivre une vie dissolue. Vous voyez ce qui se passait dans l'Église de Corinthe. Et il y avait un temple à Corinthe qui comptait quelques 1000 prostituées sacrées. Il y avait d'ailleurs quantité d'autres temples. C'était une immense cité, peut-être de 700-800 000 habitants au moins, n'est-ce pas? Et tout tournait autour de cette prostitution sacrée, de choses donc abominables. L'homosexualité était bien sûr monnaie tout à fait courante, et tous les maux que nous trouvons à l'heure actuelle dans ce domaine. Et vivre à la Corinthienne, c'était vivre d'une manière dégoûtante. Alors ce qui était fantastique, c'est que l'Évangile a une puissance, c'est la puissance de Dieu, la dynamite de Dieu littéralement, et l'apôtre Paul dit, hein, dans 1 Corinthiens 6, vous étiez autrefois homosexuel, vous étiez des efféminés, vous viviez dans l'adultère, vous viviez dans tous les désordres possibles, imaginables, et vous avez été lavé, vous avez été régénéré, vous avez été sanctifié. Vous devez ajouter, mais attention, hein. Maintenant, si votre corps est à Jésus-Christ, il ne peut pas être à l'impudicité, vous ne pouvez pas donner votre corps à nouveau à une prostituée, puisque votre corps n'est plus à vous, il est au Seigneur. Et puis, il y a le texte que nous avons lu, je crois, hein, c'était ce matin, qui conclut sur l'importance, et le texte grec dit que notre corps, non seulement, est le temple du Saint-Esprit, mais va plus loin. Il utilise le terme utilisé pour le lieu très saint, le sanctuaire du Saint-Esprit, c'est-à-dire le lieu immédiat de la présence, de la manifestation de la gloire de Dieu. Comment peut-on utiliser ce sanctuaire du Saint-Esprit pour le livrer à une prostituée? Pour aller dans l'adultère et perpétuer l'adultère, ce n'est pas possible quand on est en Christ, n'est-ce pas? Vivre à la Corinthienne. Eh bien, les Corinthiens étaient très influencés par une conception païenne de la spiritualité, notamment par les pensées de Platon. Je vais vous citer 2 passages d'écrits de Platon. Vous les comprendrez aisément, ils ne sont pas compliqués. C'est par la folie, ou si vous voulez l'exaltation due à l'inspiration, que nous arrivent les plus grands biens. C'est par la folie que nous arrivent les plus grands biens. Je vais vous donner quelques explications. Ou encore, aucune personne en possession de son intelligence n'est atteinte de l'exaltation divine et véritable. Aucune personne en possession de son intelligence n'est atteinte de l'exaltation divine et véritable. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, selon Platon, faire fonctionner toutes vos facultés de réflexion, d'intelligence, de raisonnement au moment où vous adorez une divinité. Dans le culte des divinités, donc du monde grec, si vous voulez, Platon considérait qu'on ne pouvait pas faire fonctionner ses facultés de réflexion. Il fallait se débrancher, en quelque sorte. Mettre son intelligence de côté, et puis se laisser aller, se laisser emporter. Et ceci, bien sûr, influençait les croyants de l'église de Corinthe, qui avaient été arrachés de ce monde et de cet esprit, mais qui, lorsqu'ils étaient rétrogrades, ou lorsqu'ils étaient tentés par l'enseignement des faux docteurs, revenaient vers cette conception. Plus il y a d'intelligence, moins il y a d'esprit. Plus il y a d'esprit, moins il y a d'intelligence. Alors cela, c'est une conception qui parfois existe aussi dans nos milieux. Et nous devons la bannir absolument. On ne mesure pas le degré de spiritualité à l'amplitude de l'émotion provoquée par le discours. Ce n'est pas une mesure sûre. La mesure sûre et de vérifier dans la parole de Dieu si ce qu'on nous dit est exact. Mais nous y reviendrons. Conclusion. Et je voudrais terminer là pour que nous puissions démarrer de plein pied les philosophies trompeuses qui sont passionnantes, tristement passionnantes, mais pour nous aider. Trois textes qui s'inscrivent directement l'un après l'autre dans le même passage, Matthieu 7. Matthieu chapitre 7, à partir du verset 15. Matthieu chapitre 7, verset 15. C'est solennel, c'est l'enseignement du Seigneur Jésus lui-même, c'est ce qu'on appelle la charte du royaume, les grands principes de fonctionnement de vie sous le règne de Jésus-Christ. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits ou un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Clair. Alors je vous lis ce que John Stott, qui a été cité ce matin dans le cadre de son dernier livre traduit en français, disait dans un livre précédent, toute une étude fouillée remarquable sur Matthieu 5 à 7. Il dit ceci. Alors que les « chiens » entre guillemets et les porcs sont relativement faciles à reconnaître du fait de leur attirance pour la saleté, les loups, eux, se glissent dans le troupeau sous l'apparence d'une brebis. Les imprudents les confondent avec le reste du troupeau et les accueillent. Souvent, leur vraie personnalité n'apparaît que lorsque le mal est déjà fait. Un faux docteur ne se fait pas de publicité comme diseur de mensonges, bien sûr. Au contraire, il se targue d'enseigner la vérité. D'autre part, il dissimule ses sombres intentions sous un vêtement de christianisme et il sait que les chrétiens forment un peuple crédule. Il compte ne pas être démasqué dans son habit d'innocence. Parfois, il y ajoute même le langage de l'orthodoxie historique en lui donnant un sens différent. Ça, je vais vous le démontrer avec Colossiens à partir de demain. D'autres fois, il se cachera sous la couverture de titres académiques impressionnants. Et c'est la maladie aujourd'hui. C'est la maladie. On préfère quelqu'un qui ait des titres ronflants à peut-être un humble croyant qui a des dizaines de vies avec le Seigneur derrière lui et qui a une sagesse d'en haut et qui pourrait, dans un langage très simple, nous communiquer les trésors du ciel. Nous avons renversé les priorités. Non pas qu'il faille avoir un mépris pour l'étude cérébrale, c'est pas ça, n'est-ce pas? Mais il y a dans la parole de Dieu un équilibre et une priorité à respecter. Gardez-vous, dit Jésus, être sur nos gardes, c'est demander à Dieu son discernement, utiliser nos facultés critiques et ne jamais relâcher notre vigilance. L'apparence extérieure d'une personne, son charme, sa formation, ses titres, ses distinctions ecclésiastiques ne doit pas éblouir les disciples du Christ. Derrière le docteur en théologie, le professeur ou l'évêque, ils doivent apprendre à voir s'il y a un agneau ou un loup. Et ça nous évitera aussi de partir à la dérive ou de nous enfoncer dans les eaux glauques du découragement, de l'incrédulité, de la régression, lorsque nous sommes déçus par des serviteurs de Dieu. Ça, n'est-ce pas, l'important, c'est d'avoir vraiment le regard sur le Seigneur et sur sa parole. La suite est intéressante aussi. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc les fruits dont il est question dessus, c'est pas n'importe quel fruit non plus. Hein, Jésus précise peu à peu sa pensée. Les fruits, ce sont des fruits dans la volonté de Dieu, qui s'inscrivent dans la beauté de Dieu, qui s'inscrivent dans la parole de Dieu. Plusieurs me diront en ce jour-là, au jour du grand règlement de compte, hein, Seigneur, Seigneur, ils ont le mot de passe, le sésame, hein, Seigneur, Seigneur. N'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Vous savez que le don de prophétie, dans un sens plus large dans les Écritures que ce qui est parfois enseigné, le don de prophétie est un don majeur dans l'Église de Jésus, dans l'Église locale. C'est le seul don, par exemple, qui revient pratiquement dans toutes les listes où il est question des dons publics. Et le don de prophétie, c'est simplement prenez les prophètes dans les Écritures, qui étaient des hommes de Dieu dont le cœur battait à l'unisson de celui de Dieu, dirions-nous. Ils étaient dans le sanctuaire, ils vivaient près du Seigneur, ils connaissaient sa parole, ils vivaient dans le sanctuaire. Et ils étaient, pour le peuple, des guetteurs. Ils étaient l'oreille, une oreille. Ils étaient des sentinelles. Ils étaient chargés d'aller de Dieu vers le peuple, qu'ils connaissaient bien, n'est-ce pas? Ils étaient aussi au courant des événements de leur temps. Leur intimité avec le Seigneur, leur connaissance de Dieu, leur donnait une acuité visuelle, spirituelle des événements, des personnes, des situations. Et ils étaient capables, de la part de Dieu, d'apporter l'enseignement qui correspondait à la situation du peuple, qu'ils avertissaient, qu'ils reprenaient sévèrement parfois, et qu'ils encourageaient aussi, auxquels ils rappelaient les promesses de Dieu, promesses de bénédiction, promesses de malédiction. Et parce qu'ils vivaient dans l'intimité du Seigneur, qu'ils connaissaient si bien sa parole et sa mentalité, ils pouvaient aussi anticiper. Et bien sûr, Dieu était capable de leur révéler, de les faire parler de choses dont ils ignoraient même la portée. Ça, c'est le ministère prophétique. Alors, on a donné toutes sortes d'autres définitions, mais restons simplement. Ils étaient la bouche de Dieu. Comme Aaron était la bouche de Moïse. Il prophétisait littéralement, en hébreu, pour Moïse. Moïse avait la langue embarrassée, et bien voilà, il sera ta bouche. Il parlera pour toi. N'est-ce pas? Alors ça, c'est un ministère important parce qu'il correspond aux besoins de l'Église. Là où le docteur, lui, a une connaissance de très détaillée, fouillée en même temps systématique de l'ensemble des grandes doctrines, est capable d'apporter un exposé systématique. Le prophète, c'est celui qui vit au ras de l'herbe. Il parcourt le monde en bateau, et l'Église en bateau. Il est au ras des événements, tout en ayant une connaissance de la parole de Dieu qui est très profonde, mais il est au ras des événements, il s'intéresse aux situations présentes, sur le terrain, là où le docteur et fait du paravion, n'est-ce pas? Il a une vision d'ensemble, il est capable de vous parler, à vous donner envie de parcourir ce territoire extraordinaire qu'il est en train de vous décrire depuis cette vue d'avion qu'il a en quelque sorte. Vous voyez? Alors ici, il est question de prophétiser. N'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chasser des démons par ton nom, c'est pas n'importe quoi, hein? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Voilà quel fruit vous avez. Et ça répond partiellement à la question des miracles. Et oui, on peut faire des miracles. On peut tenir des beaux discours, on peut prophétiser, on peut exorciser, on peut faire des miracles au nom du Seigneur. Et pourtant, le Seigneur ouvertement, je leur dirais ouvertement, c'est le terme confessé, homologué, mais ouvertement, le Seigneur dira non. Parce que c'est pas là l'essentiel. L'essentiel, c'est la transformation du cœur et de l'intelligence. Cette métamorphose de l'être qui fait que notre caractère change. Et que, à partir de là, nous travaillons dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance en Jésus-Christ pour que nous les pratiquions. Donc, tout miracle se réclamant de Christ ne vient pas forcément de Christ. Même lorsqu'il s'inscrit dans le cadre de l'Église de Jésus. Eh oui, ça figure dans la charte du royaume de Dieu, c'est-à-dire dans les enseignements qui sont les piliers au niveau des règles de vie sous le règne de Christ. Et il y a enfin cette dernière partie, oh là là, verset 24, c'est pourquoi « Quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents soufflés se sont jetés contre cette maison, elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. » La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, ont battu cette maison, elle est tombée et sa ruine a été grande. Donc, il importe de construire notre vie sur le roc de la parole de Dieu tout entier. Ça, c'est un grand point. Vous avez remarqué que la conclusion, elle est si belle, hein? Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité, non pas comme doctrine. Parce que Jésus ne dit pas, je vais vous donner 36 théories, et vous, pour être mûr, vous choisirez entre les 36 celles qui vous semblent la meilleure. Ça, c'est l'enseignement théologique actuel. Il disait, voilà, ça c'est la vérité. Et s'il y avait un domaine qui pouvait laisser supposer vraiment clairement plusieurs interprétations, c'était un domaine tout à fait secondaire qui n'était pas essentiel à la marche de l'Église. Mais les scribes, hein, telle école rabbinique dit ceci, telle autre école dit ceci, vous ouvrez le Talmud, il dit ceci, vous ouvrez tel livre, il dit cela. Et puis le peuple nageait. Alors méfions-nous de cet enseignement où on vous dit, écoutez, je vais vous donner toutes les théories et vous choisirez. C'est à la mode. La Bible dit. Et si on ne sait pas, on le dit. Mais là où c'est clair, la Bible dit. On peut présenter les autres positions, mais il importe aussi de dire clairement ce que le texte dit. Sinon, eh bien, les croyants sont des brebis qui, finalement, sont la proie de faux docteurs qui, eux, ne se gênent pas pour dire, c'est ainsi, c'est pas autrement.
Les amis qui voudraient itinérer, c'est-à-dire changer de place, d'autant plus que nous allons quelque peu utiliser le tableau, il y a des trous ici et là, alors sentez-vous à l'aise. Je répète ce que je disais en début de semaine, je n'ai pas encore réussi à manger quelqu'un. Ça viendra peut-être. Alors venez librement, plus près de 20. Nous voulons prier. Et nous prions, Seigneur, pour te bénir. Pour te bénir, non seulement avec notre matière cérébrale, mais avec notre être tout entier. Nous te remercions. Nous voulons te dire notre joie d'être à toi. Nous sommes heureux d'être devenus tes enfants, de pouvoir t'appeler Père, d'avoir dans ceux et celles qui sont à nos côtés des frères et sœurs, qui même s'ils ne sont pas issus du même sang, sont issus du miracle d'un même esprit ayant agi en chacun d'eux. Seigneur, comment ne pas exploser de joie en pensant au salut glorieux que tu nous as acquis. Et si nous ne sommes sauvés qu'en espérance, si nous attendons la rédemption totale qui inclura la résurrection de nos corps, dans cette attente, nous voulons, Seigneur, de tout notre être, te bénir et t'adorer, et te rendre grâce pour le privilège qui est le nôtre d'ouvrir le livre, ta parole. Tous les livres passent, toutes les philosophies trépassent. Ta parole, elle, demeure éternellement. Et nous sommes heureux, Seigneur, dans cette seconde partie de ce culte, de te faire honneur, de te glorifier, en partageant, grâce à toi, le message que tu as mis pour chacun d'entre nous dans ta parole. Gloire t'en soit rendue, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous ouvrons notre Bible. J'espère que chacun a sa Bible pour suivre dans l'épître de Paul, donc aux Colossiens, qui est au cœur de notre thème. Depuis notre arrivée, pour ceux qui font le camp de famille, Colossiens chapitre 2, nous lisons les versets 8 à 15. Colossiens chapitre 2, versets 8 à 15. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, par un appât vide, littéralement, en s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde, et non sur Christ, car en lui habite corporellement et de manière permanente toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. C'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscité en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses, par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Nous allons ajouter quelques autres lectures pour montrer combien le thème qui nous préoccupe, et ce matin et demain matin d'ailleurs, dans le cadre du camp de famille, est essentiel. Tout d'abord, dans Matthieu au chapitre 24, directement tiré des lèvres du Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il était parmi les hommes, Matthieu chapitre 24, tout d'abord les versets 4 et 5, Matthieu 24, versets 4 et 5, Jésus répond à une question de la part de ses disciples qui sont impressionnés par les constructions. On est encore aujourd'hui impressionnés par ce qui reste du soubassement du temple de Jérusalem, ce qu'on appelle aujourd'hui l'esplanade du temple. Et il répond donc à leur question: prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant « C'est moi qui suis le Christ », et ils séduiront beaucoup de gens. Versets 23 à 26, si quelqu'un vous dit alors « Le Christ est ici » Oui, il est là. Ne le croyez pas. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, et ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Deuxième épître de Paul aux Corinthiens. Deuxième épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 11, dans les versets 1 à 4. Où l'apôtre Paul manie tour à tour l'indignation et une forme d'humour un peu caustique pour essayer de leur montrer à ces Corinthiens le ridicule de leur attitude, sinon la gravité. 2 Corinthiens 11, versets 1 à 4. Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie! Mais oui, supportez-moi, car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu. Parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ou votre mentalité, vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Un peu plus loin, dans l'épître aux Galates, et au chapitre 1er, à partir du verset 6, une épître qui démarre dans une tonalité douloureuse. Douloureuse, il n'y a pas d'action de grâce au début de cette épître, et elle tranche sur les autres épîtres adressées à des églises. Et donc au verset 6, l'apôtre Paul dit son étonnement. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'évangile de Christ. Mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un évangile s'écartant de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ? Ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Et un dernier texte dans l'Épître aux Hébreux, qui a déjà été évoqué ce matin, dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 12, les versets 7 à 9. Hébreux chapitre 12, versets 7 à 9, en rappelant que l'auteur de cette épître s'adresse d'une manière particulière à des croyants d'origine juive, mais qui sont rétrogrades, et dangereusement rétrogrades. Hébreux 13, versets 7 à 9. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imiter leur foi. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par des aliments qui n'ont servi à rien à ceux qui s'y sont attachés. Nous aurions pu lire ensemble plusieurs autres textes allant dans le même sens. En introduction à notre réflexion concernant le second grand danger qui menaçait l'église de Colosse, tel qu'il est indiqué au verset 8 du chapitre 2, « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, les philosophies trompeuses », j'aimerais simplement vous lire un très court extrait du livre que plusieurs d'entre vous ont acheté hier, concernant donc les dieux du Nouvel Âge. Nous aurons encore l'occasion d'en parler. Et vous lirez dans ce livre, qui est donc écrit par une ex-pratiquante des philosophies et des philosophies débouchant sur une pratique du Nouvel Âge, Caryl Matriciana. Et Caryl Matriciana, dans ce livre, raconte comment les gens ayant des problèmes liés au flirt, à la fréquentation des sectes, des mouvements occultes et de tout ce qui appartient à ce Nouvel Âge, ces gens viennent la trouver pour des entretiens pour être aidés. Et à un moment donné du livre, elle évoque une femme qui s'appelle Cheryl. Cela se passe en Grande-Bretagne, et Cheryl était assise dans mon bureau, dit-elle, en pleurs. Elle me racontait l'étrange histoire qu'elle avait vécue. La veille, son pasteur, un homme d'allure distinguée, l'avait prise par les mains tandis qu'il la conseillait. Le silence s'était fait dans la pièce faiblement éclairée. Il lui avait ouvert les poings, elle était tendue, elle avait les poings fermés, et lui avait pressé avec douceur les paumes contre la surface de son bureau. Puis il avait posé la pointe de ses propres doigts contre ceux de la jeune femme, les touchant à peine. « Maintenant, fermez les yeux, lui avait-il dit calmement. Imaginez-vous, petit enfant, vous rappelez-vous quand vous aviez 2 ans ?»« Oui, avait fait Cheryl d'une voix brisée. C'est bien. » « Vous êtes blessé, désemparé, votre père vient de vous laisser après vous avoir maltraité. » Cheryl s'était mise à sangloter. « Vous êtes abandonné, apeuré, vous ne portez que vos langes et une chemisette, on frappe à la porte, vous y allez l'ouvrez. » Soudain, la pièce est baignée d'une lumière éblouissante. C'est Jésus. « Jésus !» avait murmuré Cheryl d'une voix d'enfant. « Oui, Jésus !» Maintenant, racontez-lui ce qui s'est passé. Demandez-lui ce que vous devez faire. Il va vous parler. Écoutez-le. À cet instant, le pasteur était sorti en silence de la pièce, laissant Cheryl sangloter convulsivement, après lui avoir recommandé d'avoir une conversation privée avec ce Jésus. Cheryl était venue me voir parce qu'il lui semblait confusément que cette expérience était mystique ou magique. Elle éprouvait de la crainte sans savoir pourquoi. Pour moi, une telle évocation, rappelée d'une manière alarmante, et c'est Caryl Matriciana qui parle des expériences, des pratiques spirituelles hindoues. Je me souvins des conversations avec des gourous occultistes qui les encourageaient, les enseignaient ouvertement. Dans ce genre de technique utilisée depuis des siècles, il s'agit de visualiser et de rencontrer le guide spirituel. Aujourd'hui, c'est quotidiennement que des dizaines de conseillers chrétiens se livrent à de telles pratiques. On visualise Jésus. Il s'anime dans l'esprit du patient et on lui demande conseil. Lorsque ce Jésus parle, ses paroles sont considérées comme des mots sortant de la bouche de Dieu. Les conseillers qui prennent part à ce genre de visualisation thérapeutique, qu'on appelle souvent guérison intérieure, expliquent que Jésus est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Le patient ou bien ne le connaissait pas, ou bien n'a pas fait appel à lui au moment d'une crise particulière, dont on ne fait que reconstituer les circonstances en la présence de Jésus. Ce texte est impressionnant. Et il est impressionnant parce qu'il soulève deux questions. La première est liée au fait que cette femme va voir un pasteur. Son pasteur, peut-être même. Le pasteur de son église. Ou bien un pasteur ayant la notoriété pour s'occuper de ce qu'on appelle la cure d'âme, la relation d'aide ou d'autres noms encore. Or, vous avez remarqué dans l'Épître aux Hébreux, dans le texte que nous avons lu au chapitre 13, il nous est dit, souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Et puis, considérez comment ils se sont conduits, le texte original laisse entendre, non seulement la fin de leur vie, mais le cours de leur vie et son aboutissement. Et enfin, imiter leur foi. Et bien entendu, le second problème, cela vous a sans doute frappé, c'est qu'il est question d'un certain Jésus. Un Jésus qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement, c'est-à-dire que donc ce pasteur et d'autres serviteurs de Dieu s'appuient sur le texte d'Hébreux chapitre 13 verset 8 pour justifier de la valeur de l'expérience et de l'enseignement qu'il donne. Or, vous avez remarqué aussi qu'il y a le verset 9, immédiatement après, qui est une mise en garde. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères. Ce que nous avons partagé ensemble, dans le deuxième grand chapitre lié au chapitre 2, verset 4, les discours séduisants, nous a montré que nous devions être vigilants. Et vigilants vis-à-vis notamment de ceux qui proclament, de ceux qui parlent, de ceux qui sont les conducteurs, de ceux qui enseignent. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux, inspiré par Dieu, a pris soin de dire que ces conducteurs doivent avoir enseigné la parole de Dieu, et non pas un quelconque mot de leur cru, issu de leur propre cœur ou de leur propre philosophie. C'est pourquoi aussi le verset 8 de Colossiens 2 est important. Que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie. Alors nous allons essayer dans un premier temps, courtement, d'évoquer le problème de l'église de Colosse. Dans un second temps, nous analyserons ce matin ou ce midi très partiellement la philosophie et nous verrons comment l'apôtre Paul y répond de la part de Dieu. Et puis, dans la conclusion, sans doute demain, en fin d'exposé, nous en tirerons quelques conclusions pour nous aujourd'hui. Alors tout d'abord, le problème colossien, nous l'avons abordé avec ceux qui se réunissent chaque matin, nous l'avons fait mardi, très brièvement. Et j'aimerais simplement souligner ceci, c'est qu'il n'est pas facile de déceler de manière très précise la nature de la déviation, la nature de ce qu'on appelle l'hérésie, qui a empoisonné de plus en plus cette église. On peut essayer de l'examiner avec précaution, avec prudence, dans ses grandes lignes. Quelle était-elle? Alors ces faux docteurs qui essayaient de s'infiltrer, qui essayaient d'empoisonner les croyants, visant sans doute aussi les plus fragiles d'entre eux, les faux docteurs prétendaient avoir découvert une sagesse supérieure. Et ils susurraient dans l'oreille de qui voulait l'entendre, « Vous savez, la doctrine présentée par Paul, elle est trop simple. Son évangile est trop élémentaire, ce n'est pas assez subtil, ce n'est pas assez spirituel, ce n'est pas assez élevé. » Et quand ils avaient réussi, simplement par ce moyen, à quelque peu déstabiliser ces jeunes croyants très fragiles, et puis l'église de Colosse n'avait que quelques années, tout au plus, derrière elle, elle était donc constituée essentiellement de personnes qui avaient peu d'expérience spirituelle, quand ils étaient quelque peu déstabilisés, alors on avançait sur le terrain de ces philosophies trompeuses. Il s'agit d'abord d'une philosophie religieuse. Bien que tout ce que nous disions peut s'appliquer au grand courant philosophique, ceux qui ont été un acide terriblement agressif, par exemple dans notre pays de France, et qui ont sapé tout fondement spirituel basé vraiment sur la parole de Dieu. Et ceux qui sont dans le secondaire et qui ont fait philo ou qui vont faire philo savent le mal que font ces courants philosophiques dans les cœurs. Et ce que nous partageons là peut les aider aussi, même si ces philosophies étaient ici religieuses, mais finalement, d'une certaine manière, toute philosophie est une forme de religion. Mais hélas, bon nombre de philosophies évacuent Dieu pour mettre l'homme avec ses idées à la place de Dieu. Nous nous souvenons d'ailleurs qu'une philosophie est un système de pensée qui est élaboré par l'esprit humain et qui change. Et on peut changer de philosophie comme de chemise, et on évolue dans ces philosophies. Et les philosophes se battent entre eux, chacun pensant avoir la réponse au problème de l'humanité. Et telle philosophie valable hier ne l'est plus du tout aujourd'hui. Le christianisme, et j'en parle avec un grand C, je ne parle pas d'un pseudo-christianisme, de religion simplement, mais celui qui s'appuie sur la parole de Dieu, le christianisme n'est pas une philosophie. Ce n'est pas une élaboration de l'esprit humain. Le christianisme est une révélation. C'est quelque chose qui nous a été donné de manière extraordinaire, comme un cadeau absolument gratuit de la part de Dieu qui s'intéresse à sa créature et qui veut la voir épanouie. Et il n'y a pas d'épanouissement possible tant que le vide intérieur n'est pas comblé par Jésus-Christ. Il est impossible de trouver la paix du cœur, un sens à sa vie, en dehors de Jésus-Christ qui est notre paix. Cette philosophie religieuse que nous mettons en cause avec l'apôtre Paul était un amalgame, un mélange. Nous avons dit une ratatouille, une Macédoine, un amalgame d'éléments qui étaient issus du paganisme grec. L'influence grecque était très forte, nous l'avons constaté hier matin au niveau de la vie spirituelle, également du paganisme d'Orient, des concepts venant des Indes ou d'Égypte, également de Perse, faisait partie de cette philosophie, surtout un peu plus tard, lorsqu'elle s'est davantage élaborée. Puis il y avait des éléments du judaïsme, et enfin des éléments du christianisme. C'était un mélange, ce qu'on appelle, en termes un peu compliqués, un syncrétisme, un mélange d'éléments des grands courants religieux du bassin méditerranéen. Et cette philosophie religieuse était un mouvement religieux qui, en apparence, était plus spirituel et surtout plus crédible pour les hommes, parce qu'il flattait l'orgueil humain, tout comme les philosophies aujourd'hui flattent terriblement l'orgueil humain. Et puis on saupoudrait tout cela de traditions humaines, de croyances aux divinités païennes, aux forces occultes, toutes les croyances qui étaient tout à fait courantes, je dirais parmi toutes les couches de la population à cette époque. Et si on veut résumer cette philosophie religieuse en deux mots, on dira que c'était vouloir atteindre le salut par la connaissance. Vous vous souvenez, nous l'avons dit cette semaine. Être sauvé par la connaissance. Comment est-ce qu'on peut discerner l'embryon de cette philosophie religieuse qui va se développer peu à peu comme un cancer? Tout d'abord limité, puis peu à peu développement des métastases pour essayer d'étouffer l'Église, de la faire périr dans tout ce bassin méditerranéen et en Turquie actuelle. Comment est-ce qu'on peut la détecter? Eh bien, on peut la détecter à partir d'un certain vocabulaire, et c'est là que notre conclusion demain va être très intéressante. On peut la détecter à partir d'un certain vocabulaire utilisé par l'apôtre Paul, qui simplement reprend le vocabulaire des faux docteurs. Mais simplement, l'apôtre Paul va prendre soin, comme nous allons le voir, de démolir les définitions de ces faux docteurs et de dire « voilà ce que signifie exactement telle ou telle pensée ». Et c'est ce courant qui va aboutir au gnosticisme. Ce n'est pas encore le gnosticisme, c'est ce qu'on appelle un pré-gnosticisme, de gnose, le mot gnose étant l'équivalent du mot connaissance. C'est un mot grec, n'est-ce pas, que l'on a rendu soit par le même mot, soit par le mot français connaissance, le gnosticisme. Ce courant va donc faire trembler l'Église de Jésus-Christ au second siècle et au troisième siècle. Et Dieu va susciter des serviteurs, des hommes de Dieu, ceux que l'on a appelés, pour un certain nombre d'entre eux, d'ailleurs les pères de l'Église, mais il faut faire attention quand on utilise ce terme. Certains d'entre eux ont dit des choses très justes à côté de choses très fausses. Mais certains d'entre eux ont été suscités par Dieu pour répondre à ces faux docteurs. Nous ne sommes pas très loin de la ville de Lyon, qui a eu beaucoup d'importance dans l'histoire de France et dans l'histoire des Gaules. C'était l'ancienne capitale. Elle est encore aujourd'hui la capitale, vous le savez, religieuse de la France. La primatiale se trouve à Lyon. Et l'archevêque, qui est le chef de l'Église catholique en France, est à Lyon aussi. Donc Lyon a toute une histoire très importante et elle a eu entre autres un grand docteur qui s'appelait Irénée, et Irénée qui fut évêque de Lyon, mais dans un sens déjà hiérarchique qui nous gêne, Irénée a écrit spécialement contre ces fameux gnostiques. Je le signale au passage, peu importe que vous le reteniez ou non. Alors nous allons simplement passer un petit moment, un court moment encore, à partir de ce problème colossien, à analyser cette philosophie. Il faut le faire. J'imagine l'apôtre Paul, les serviteurs de Dieu dans l'Église primitive, croyez-moi, on étudiait la parole de Dieu. On n'en restait pas au petit lait. Et c'est ça ce qui accrochait le cœur des croyants, c'est que on voulait aller plus loin, on voulait grandir, on ne voulait pas rester au petit lait, on voulait aller à la viande, et nous devons essayer, en restant le plus simple possible, de parler aussi de la viande, de manière à être mûr, adulte, et à pouvoir aussi aider les croyants qui sont en danger. Alors nous allons procéder simplement de cette manière. Nous allons choisir un certain nombre de mots dans Colossiens chapitre 1 et chapitre 2 qui sont des mots-clés et qui sont en particulier des mots utilisés par les faux docteurs. Nous allons donner la définition que les faux docteurs donnaient à ces mots. Et puis nous allons voir ensuite quelle définition l'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, donnait pour rectifier dans l'esprit, dans le cœur des croyants de Colosse, ce poison qui était en train de s'infiltrer. Et pour nous aider, nous allons retourner simplement le tableau et essayer de nous en servir. Alors essayez de ne pas vouloir absolument tout manger d'un coup, vous feriez une indigestion, et d'autant plus qu'il y a un autre repas tout à l'heure, mais vous allez voir que c'est très simple, et demain encore, ce tableau sera à votre disposition dans la salle, de manière à ce que vous puissiez le noter complètement. Ne vous inquiétez pas, et c'est schématisé et simplifié au maximum, parce qu'en fait, les doctrines qu'on appelle gnostiques et même prégnostiques sont beaucoup plus compliquées. Alors, je les ai simplifiées, schématisées, et vous verrez que c'est très intéressant. Alors, le premier mot que nous allons analyser ensemble se trouve dans le chapitre 1er et au verset 19. Colossiens chapitre 1er, verset 19. C'est une des grandes affirmations de l'épître de Paul aux Colossiens. Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui, c'est-à-dire en Christ. Grande affirmation. Chapitre 2, verset 9. En Christ, en lui, Christ est juste avant, dans la proposition précédente, en Christ, en lui, habite, attention, ça veut dire ce que cela veut dire, habite, je dirais, endure. Et il faut le préciser. Parce que si vous lisez le début de l'évangile selon Jean, il est dit que la parole a été faite chair et qu'elle a habité parmi nous. Hein, vous connaissez ce texte. Il se trouve que ce n'est pas le même terme dans le texte original. Et c'est un terme que vous connaissez, c'est tout simplement le terme tabernaclé. Le tabernacle, c'était littéralement la tente, le campement. Alors, la parole a été faite chair et elle a campé, elle a tabernaclé. Pour un temps, elle s'est enveloppée dans un corps de chair. Mais c'était pour un temps seulement. Alors qu'ici, le terme qui est utilisé sous-entend une maison en dur, c'est-à-dire une habitation permanente. Hein? Alors on peut rendre ainsi, car en Jésus-Christ habite de manière permanente, corporellement, toute la plénitude de la divinité, toute la plénitude. Vous voyez, donc à deux reprises dans cet épître de Paul aux Colossiens, vous avez ce même mot, plénitude. C'est le mot-clé. Vous pouvez mettre dans la marge de votre Bible une petite clé qui indique que c'est un des termes, sinon le terme essentiel, la plénitude. Qu'est-ce que c'était que cette plénitude? Terme utilisé par les faux docteurs, dans cette philosophie trompeuse. La plénitude, c'est le mot que nous avons là-haut. C'est le mot plérôme. Nous aurions pu le laisser comme dans le texte original, c'est-à-dire comme nous avons là un autre mot, se terminant par A, le pléroma ou le plérôme. Qu'est-ce que c'était que ce plérôme chez ces faux docteurs? Eh bien, c'est très difficile à situer. C'est une sorte d'abîme de lumière divine. En tout cas, il est question de lumière. Un abîme de lumière divine, une sorte de nom abstrait de la divinité absolue, qui est très loin, insaisissable, séparé de la terre, et qui ne veut surtout pas avoir de contact avec la terre. Ce plérôme n'est d'ailleurs pas le créateur de la terre chez ces faux docteurs. Parce que la terre, c'est de la matière. Et la matière, dans ce système de pensée, est mauvaise. Terriblement mauvaise. Au point que ces faux docteurs appelaient la terre, la matière, le kénoma, d'un mot grec qui veut dire le vide, littéralement. Le vide. La matière, c'est le vide, c'est creux, c'est le néant, c'est la vacuité. Et bien sûr, les perdus sur la terre, ce sont les matériels, parce qu'ils sont enfermés dans leur corps de chair, la chair c'est de la matière, les pauvres, ils sont prisonniers de la matière. Et ils n'ont pas été créés par le plérôme. Il faut souligner que dans toute cette philosophie, le bien, c'est toujours l'esprit. Le mal est toujours la matière. Et nous avons hérité, en Europe occidentale, à cause de toute l'influence grecque, de conceptions complètement fausses au niveau de notre corps. Une des raisons pour lesquelles le corps a été si mal considéré pendant des siècles, pour aboutir maintenant à l'autre extrême, au déchaînement des passions par réaction, n'est-ce pas, c'est que pendant longtemps, sur le plan religieux, on avait cette conception, la matière c'est mauvais. Donc le corps est mauvais. Et encore aujourd'hui, même des croyants qui sont convertis à Jésus-Christ ont de la peine à accepter leur corps. Et il m'est souvent arrivé de prendre le psaume 139 avec des croyants qui n'osent pas se regarder dans une glace et qui maudissent leur corps jour après jour en le traînant comme un boulet avec eux, de prendre ce texte dans lequel, vous le savez, David loue le Seigneur parce qu'il est une créature merveilleuse. Mais voyez que ces concepts, cette manière de penser remonte à cette époque. À tout ce qui se disait, n'est-ce pas, au sujet du corps à cette époque-là. Alors la terre, elle, aurait été créée, mais je ne vais pas entrer dans les détails, par un esprit inférieur, qu'on appelle un démiurge, un architecte, un terme qu'on retrouve aujourd'hui dans les sectes aujourd'hui. Ce que nous allons surtout souligner, c'est deux choses. Chez les faux docteurs, Dieu est impersonnel. Ce n'est pas une personne. C'est un fluide, insaisissable. Et deuxièmement, ce Dieu-là, ce fluide-là, est naturellement inaccessible. Alors, ça, ce sont deux points de repère qui sont extrêmement importants. Et bien sûr, mais nous allons y revenir avec plus de détails, entre cette divinité, ce pléroma inaccessible et l'homme qui est là enfermé dans son corps mais qui a soif de s'évader de son corps par son esprit, n'est-ce pas, il y a des intermédiaires dont nous allons parler et voir ensuite comment l'apôtre Paul répond à ces faux docteurs. Et ce sont ces intermédiaires qui sont comme les barreaux d'une échelle et qui permettent peu à peu de lisser l'homme spirituellement, jusqu'à la fusion, on ne sait pas très bien quand, hein, c'est comme dans la réincarnation, c'est comme dans le nirvana du bouddhisme, on ne sait pas très bien quand ça arrivera, quand ça se passera, je dirais même que c'est comme dans le purgatoire. Hein, quand est-ce qu'on va en sortir, au bout de combien de temps, et après combien de services rendus par la prière, les aumônes et tout le reste, on ne sait pas très bien. Hein. C'est si loin tout cela, mais il faut passer par ces intermédiaires. Quelle est la réponse de Paul? C'était ce que nous avons partagé dans ce culte. Et c'est dans ce sens que je bénis Dieu pour la manière dont Dieu a orienté ce culte. La réponse de Paul est toute simple. Vous avez remarqué que Christ est indiqué dans les barreaux. Il est même sur le barreau le plus bas. Il n'a pas toujours été sur le barreau le plus bas. Certains le plaçaient à d'autres endroits. Mais certains autres le plaçaient même sur le barreau le plus inférieur pour pouvoir se hisser jusque là-haut. Et ça, c'est déjà subtil. On ne dit pas c'est mauvais. On le met dans le système. De manière à ce que les croyants fragiles se laissent prendre. Ah, il est là.
Il est là, notre Christ, celui qui nous a sauvés. Bon, maintenant, on va faire un pas de plus. On va aller plus loin.
Alors l'apôtre Paul répond, et ça, ça fait un bien extraordinaire, mais Jésus-Christ n'est pas un barreau de l'échelle. Il n'est pas un barreau de l'échelle qui mène à ce plérôme. Il est le plérôme lui-même. Alors nous devrions avoir un autre schéma dans lequel on lisserait Jésus-Christ et on mettrait son nom ici, n'est-ce pas, là-haut, au sommet de cette échelle. Il est le plérôme lui-même. Il est le Dieu absolu. Il est le créateur du cosmos, c'est-à-dire de ces univers dont on chatouille la superficialité de la superficie de la surface. J'essaye de dire des bêtises là, mais pour montrer combien on est loin de pouvoir embrasser les univers de ce grand créateur qui s'appelle Jésus-Christ lui-même. Et l'apôtre Paul va développer cette pensée dans le chapitre 1er et dans les versets 15 et suivants. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes, les dignités, les dominations, les autorités. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église et le texte continue ainsi. Alors il vaut la peine de décortiquer un petit peu ce texte et de demander vraiment au Seigneur que ça ne reste pas dans notre matière grise, mais que cela nous conduise à l'adoration. Alors il est dit tout d'abord que le Fils est l'image du Dieu invisible. C'est une déclaration qui peut poser des problèmes. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont fait récemment des photos d'identité sans aller dans un laboratoire photo, mais en allant dans ce qu'on appelle les photomatons, hein, dans les hypermarchés ou les gares. Vous savez que nous sommes parfois très déçus. Hein. Quand on sort, on voit sortir, on voit tomber les quatre petites photos, on se demande si on est allé au bagne à Cayenne ou si l'on sort de prison. C'est une image. Et cette image est un très pâle reflet, heureusement, de la réalité de nos gentils et beaux petits minois, n'est-ce pas? Heureusement, dans les Écritures figurent plusieurs termes qui sont rendus assez facilement par le mot image, parfois par le mot figure, par le mot ressemblance dans le Nouveau Testament. Mais ici, c'est un petit mot qui revient à plusieurs reprises, mais qui est tout à fait particulier puisqu'il a donné en français le mot icône. Et vous savez ce qu'est une icône ? Une icône, dans certaines religions, en particulier à la religion orthodoxe, a beaucoup d'importance. Et même dans le catholicisme, elle occupe aussi sa place. Mais dans la religion orthodoxe, les icônes sont d'une importance absolument capitale. Elles sont une sorte de représentation de ce monde de la divinité. Et en priant devant elle, en faisant certaines pratiques, devant elle, on peut aller vers ce salut, n'est-ce pas? Mais le terme icône signifie image, mais une image qui a ceci de particulier, c'est qu'elle n'est pas une ressemblance floue. Elle n'a pas besoin de retouche. C'est une représentation exacte, complète, totale, de la divinité. Au point même que cette image va jusqu'à participer à l'essence, à la nature même de la divinité. C'est intéressant, hein? L'apôtre Paul a été inspiré par le Saint-Esprit pour utiliser ce terme-là. Jésus-Christ est l'icône, la représentation exacte, totale, entière,
parfaite qui participe pleinement à l'essence de la divinité. Ce n'est pas une figure, ce n'est pas une ombre. Si vous voulez, la seule différence qui existe entre Dieu le Père et Dieu le Fils, c'est que Dieu le Père est invisible et que Dieu le Fils est visible et nous permet donc d'accéder à la connaissance de ce Père invisible. Il y a dans un des palais, des vieux palais de Rome, une salle un petit peu comme à la Sixtine, dont le plafond est couvert de magnifiques peintures. Je me souviens avoir visité la Sixtine et avoir eu beaucoup mal au cou à passer énormément de temps, et la voûte de la Sixtine, le plafond est très très haut et on peut passer des heures à voir ce qui s'y passe. D'ailleurs, on en a parlé récemment puisque ce plafond de la Sixtine a été entièrement refait. Il y a eu tout un conflit à ce sujet. Et donc, on peut se faire très mal. Alors, dans ce palais que l'on visite, le propriétaire a eu l'ingénieuse idée, pour éviter qu'on ait mal au cou, d'installer au sol de grands miroirs qui, donc, reproduisent en quelque sorte ce plafond. Et on s'assoit sur des bancs, et au lieu de regarder en haut et de se faire mal, on voit en dessous, à ses pieds, ce qui est au plafond. C'est une faible image. Un pâle reflet de ce qu'est la personne de Jésus-Christ qui rend le Dieu invisible merveilleusement visible. Le Fils est l'image du Dieu invisible. Toujours cette idée derrière. Il est le plérôme, il est le Dieu absolu, il n'est pas un petit Dieu. Prenons simplement un second exemple, bien qu'on puisse peut-être simplement citer deux ou trois versets, par exemple l'introduction de l'Épître aux Hébreux, Hébreux chapitre 1er, verset 3, Hébreux chapitre 1er, verset 3, le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Ou encore, il est le rayonnement de sa gloire, de sa beauté, de ses perfections au niveau du caractère et des œuvres. Chez les Hébreux, la gloire, c'est ce qui avait beaucoup de poids, ce qui était très pesant. Vous connaissez ce texte ? Tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Ta gloire est éphémère, elle est bien fragile. Il est le rayonnement de sa gloire et l'expression de son être. Comme s'il y avait, il y a derrière ce texte deux idées, deux petites images mais qui sont très belles. Tout d'abord l'image de la lumière du soleil. Il est le rayonnement de sa gloire. De la même manière que les rayons du soleil sont indissociables du soleil, hein, vous ne pouvez pas séparer les rayons du soleil. De la même manière, Jésus-Christ fait un avec le Père, il rayonne la gloire de Dieu. Et puis il y a la seconde image en dessous, il est l'empreinte de sa substance, dit le texte, c'est l'image de l'empreinte d'un sceau. L'empreinte d'un sceau. Il est distinct du Père comme personne. Il fait à la fois un avec le Père, mais en même temps, il est distinct du Père. Jean 1, verset 18, « Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. » Jean 1, verset 18. Roy Essien, cet homme de Dieu qui nous a laissé quelques livres traduits en français, essentiellement sur la question du réveil et de la personne de Jésus-Christ, écrit ceci dans un de ses livres, « Nous voudrions voir Jésus. » Oui, tout comme la parole et la fille de la pensée, l'empreinte dans la cire et la fille du sceau, les rayons sont les fils du soleil, Jésus est le Fils de Dieu. Il est son égal, sans jamais être indépendant de lui. Il nous révèle le Père d'une manière parfaite et simple que nous pouvons comprendre. Tout ce qu'il est, il l'était non seulement lors de son incarnation, mais déjà avant la création,
et il le sera pour toujours. On va prendre simplement une deuxième expression avant de terminer ce culte. Il nous est dit immédiatement dessous, le Fils donc est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Est-ce que ce n'est pas une déclaration qui vous dérange? Moi, c'est une déclaration qui me dérange. Avez-vous déjà eu un entretien, par exemple, avec un témoin de Jéhovah? Les témoins de Jéhovah, pour ne parler que d'eux, mais bien d'autres sectes qui s'occupent de la Bible, utilisent ce texte pour dire que le Seigneur Jésus est une création, et en cela une créature de Dieu. Il est la première personne, en quelque sorte, à avoir été créée par Dieu. Et la bouche en cœur, il vous sort notamment, parmi d'autres, ce texte de Colossiens au chapitre 1. Si votre foi n'est pas bien assise, si vous connaissez mal les Écritures, si vous avez une mauvaise communion avec le Seigneur, eh bien, vous risquez d'être fortement troublé. Et bien des jeunes croyants ont été troublés parce que, effectivement, le terme premier-né signifie premier-né au sens littéral. Quand il est dit que Marie mit au monde son fils premier-né, le coucha dans la crèche, le terme grec qui est utilisé est exactement le même terme. Et ils peuvent vous le dire. Vous savez, c'est le même terme. Alors, comment sortir de ce piège? Et sans doute, était-ce un des arguments de ces faux docteurs lorsqu'ils essayaient de rabaisser Jésus et de justifier le rabaissement de Jésus sur la base de la prédication, peut-être, de l'apôtre Paul? Alors, comment comprendre? Eh bien, vous savez, nous avons parlé cette semaine d'une règle. Cette règle, c'est que la Bible s'explique par la Bible. Les textes et les expressions compliquées, énigmatiques, apparemment choquantes et contradictoires s'expliquent par des textes plus clairs. Ça, c'est une chose merveilleuse. Mais il faut creuser. La Bible est comme une mine. Il faut aller en profondeur, il faut accepter de trouver les veines. Ça coûte. Ceux qui restent à la surface, eh bien, ne vont pas bien loin dans l'exploitation. Et Dieu nous a pourvus de tous les instruments nécessaires à ce genre de spéléologie, n'est-ce pas? On sait que la spéléo, même si je n'en fais pas, est un sport qui demande une préparation, des précautions, un effort. Ça fait toc-toc dans certains cœurs, je l'ai entendu depuis la première expédition, cette fois-ci, il y a 2 ans aussi, n'est-ce pas? Quand on veut aller en profondeur, ça coûte, hein? Et il faut acheter du matériel. Et pourtant, c'est gratuit avec le Seigneur. Alors, le premier-né, est-ce que ça se trouve peut-être ailleurs dans les Écritures? Alors, ça se trouve à plusieurs reprises dans les Écritures. Par exemple, nous discutions